Chers amis de Radio Galère, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir tous les mardis, de 18h à 19h, dans l'agora de l'Université Populaire de Marseille Métropole, sur la bande FM 88.4, sur le canal 8C de la radio numérique terrestre et en diffusion Internet. L'agora vous propose des régalades, des pépites, des projets, des initiatives de la recherche, de la créativité, de la cité. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, Éric Neveu va vous présenter le contenu de son livre « Sociologie du journalisme » publié par les éditions La Découverte au mois de juin 2024. Éric Neveu est professeur émérite de sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Rennes. Ses travaux portent sur les études culturelles, la télévision et les mouvements sociaux. Parmi ses travaux sur le journalisme, on peut citer « En immersion pratique, intensive du terrain en journalisme, littérature sociale et sciences sociales » avec Pierre Leroux aux presses universitaires de Rennes. Bonjour Éric Neveu.
Bonjour.
Éric Neveu, pourquoi ce livre ?
Alors, c'est un livre qui a maintenant une vingtaine d'années, puisque ce sont les petits formats de chez La Découverte avec des actualisations régulières. L'idée, quand je l'ai écrit, c'était de faire une synthèse d'un point de vue sociologique sur le journalisme, qui est une chose qui n'existait pas à ce moment-là dans l'offre de la librairie. Et l'idée aussi, c'était qu'au fond, on ne comprend bien ce que fabriquent les journalistes, je veux dire par là les articles de presse qu'on découvre dans son quotidien ou ce qui défile sur son écran de télé, que si on va un peu soulever le couvercle de la maison et se poser des questions sur c'est quoi au quotidien le travail des journalistes, à quoi ils occupent leur journée, comment ils collectent l'information, dans quel type de rapport de force ils sont pris, et que même si on veut exprimer un point de vue critique sur ce que fait le journalisme, on le fait beaucoup plus intelligemment si on comprend aussi les contraintes, les interdépendances dans lesquelles ils sont plongés.
En lisant votre livre, j'ai observé une énorme bibliographie. Vous êtes vraiment attaché à vous approprier, en tous les cas à vous inspirer de ce que nombre de vos collègues ont aussi publié.
Oui, alors il y a une grosse bibliographie. C'est toujours le problème de ce format de bouquin en 128 pages. Parce que quand vous avez déjà rempli les 128 pages et qu'il y a une réédition, ça veut dire qu'il faut couper des choses que vous pensiez absolument indispensables dans l'édition d'avant pour en mettre des encore plus indispensables. Oui, j'ai toujours en général une biographie assez consistante. Bon, entre autres, parce que il y a quand même une énorme part de la recherche qui se fait sur le journalisme, qui se fait en langue anglaise et que non pas toutes les innovations nous viennent des pays anglophones, c'est pas vrai, mais beaucoup de tendances qu'on peut observer aux États-Unis vont traverser l'Atlantique en très peu de temps, et donc c'est aussi un espèce de bon point d'observation pour anticiper. Et puis j'essaie aussi de lire des livres de journalistes. Alors il y en a de très mauvais, de très narcissiques, où on se regarde le nombril, mais il y a aussi chez une partie des journalistes, vraiment une réflexivité extrêmement intelligente. Je sais pas, pour donner une référence, il y a un journaliste de Libé qui s'appelle Rachid Larèche, qui a sorti l'année dernière un bouquin qui s'appelle « Il y a que moi que ça choque », si je me rappelle bien du titre, et où il raconte son apprentissage de journaliste politique. Alors, c'est intéressant parce que c'est un journaliste qui est assez atypique. Il a commencé par être à l'accueil à Libé, ce qui n'est pas le parcours banal des journalistes. Et puis, il est passé de l'autre côté. Et à un moment donné, il se retrouve donc au service politique. Et il raconte vraiment de manière très intelligente comment, d'un côté, il est pris dans le jeu. C'est génial, je joue dans la cour des grands, je vais interviewer les grands politiques, je fais partie du club. Et en même temps, d'abord le sentiment qu'il est illégitime parce que c'est quelqu'un qui est originaire des quartiers populaires de Montreuil, et puis quand même toujours un doute, est-ce qu'il faut prendre vraiment au sérieux ces politiques très narcissiques qui s'imaginent que leur moindre fait et geste influe sur la planète? Et il y a vraiment une très belle réflexion où il raconte sa pratique sur qu'est-ce que c'est que les ambiguïtés d'être un journaliste politique. Et ça fait beaucoup de bien de lire ces choses-là et d'écouter aussi la réflexivité qui vient de la profession, et elle existe.
On peut dire qu'il y a de bons journalistes.
Absolument, il y a de bons journalistes et bon, alors ça c'est peut-être une autre composante. Au fond, les journalistes et les universitaires sont deux tribus qui se regardent de travers, bon, et qui assez souvent se méprisent. Alors, si en tant qu'enseignant je mets dans la marque une copie d'étudiant journalistique, tout le monde aura compris que c'est pas un compliment. Et dit comme ça, c'est peut-être brutal, mais il y a chez les gens, beaucoup de journalistes, on va dire, un anti-intellectualisme latent, qui considère que ces universitaires, c'est des gens qui sont infoutus de répondre par oui ou par non à une question, qui ont besoin de 10 minutes pour expliquer des choses pour lesquelles 3 phrases devraient suffire et qui sont des coupeurs de cheveux en quatre dans le sens de la longueur. Donc ça crée tout un tas de malaise. Mais ce qui est un phénomène très français, parce que par contre, je suis très frappé, quand on va par exemple en Grande-Bretagne, il y a énormément de lieux et de possibilités où les journalistes et les universitaires qui bossent sur le journalisme, bah, échangent. Éventuellement, ils peuvent élever la voix et ne pas être d'accord, mais il y a une forme de respect et d'écoute mutuelle qui est extrêmement intéressante et qui fonctionne très rarement en France.
Il y a plusieurs écoles de journalisme en France. Est-ce qu'elles forment vraiment des journalistes?
Alors, d'une part, même si
Alors, je ne sais pas si on peut généraliser, parce que je crois que chacune des écoles de journalisme a ses qualités et ne sont pas toutes équivalentes dans les formations qu'elles dispensent.
disons qu'il y a une très forte hiérarchisation des écoles de journalistes, c'est-à-dire en gros, vous avez l'école de Lille, l'EQS à Strasbourg, et deux écoles sur Paris qui sont vraiment au sommet des convoitises des étudiants. Et il y a une vingtaine d'écoles qui sont reconnues par la profession, le nombre de formations au journalisme étant encore plus grand. Un premier problème, c'est que plus on monte dans la hiérarchie des écoles de journalisme, et donc plus on monte aussi dans les perspectives d'insertion professionnelle, c'est plutôt ces grandes écoles de journalisme qui vont envoyer vers les grandes radios, les grandes télés, la presse quotidienne parisienne. Plus on a des profils d'étudiants qui sont CSP++ du côté de leurs parents. Alors, moi, j'ai fait cours dans des écoles de journalistes, enfin, qui sont des gens intéressants au sens, c'est des gens qui ont un bagage, c'est souvent des gens qui ont une vraie passion et une vocation pour le métier de journaliste, mais c'est pas très souvent des gens qui ont une expérience de la différence sociale. Bon, éventuellement, ils ont été faire un Erasmus à l'étranger, mais par exemple, les classes populaires, on pourrait dire en étant méchant qu'ils ont vu ça sur des cartes postales. Et je pense à un autre problème, c'est que dans ces écoles, c'est pas illogique, mais ça produit des effets. C'est-à-dire, comme les étudiants qui recrutent ont déjà bac plus 4, des fois dans certains cas bac plus 5, bon, beaucoup ont fait des formations comme Sciences Po. En gros, la formation qu'on peut appeler intellectuelle et scolaire, elle est faite. Et donc, d'un côté, les étudiants disent les cours magistraux, basta, maintenant je veux apprendre des trucs pratiques. Et le discours des écoles, c'est on fait du pratique. Et bien sûr qu'il faut du pratique. Il y a des compétences professionnelles qu'on est incapable de transmettre, nous, à l'université. Mais du coup, ça fonctionne aussi comme une espèce de machine à gommer tout un tas d'acquis intellectuels, c'est-à-dire des habitudes de problématiser, de réfléchir, de s'arrêter un peu. Ça finit par être considéré comme des choses qui parasitent le travail journalistique et ça n'a pas des effets positifs, même si effectivement on n'écrit pas un article de presse comme on écrit une dissertation et qu'il faut des fois défaire des choses qu'on a apprises pour en faire bien d'autres.
Un journaliste du monde diplomatique me disait que le budget que ce journal consacre à un sujet correspond au budget de 20 000, du journal 20 minutes, donc un journal gratuit pour l'année.
Oui, ben, d'ailleurs, en fait, d'ailleurs, 20 minutes qui est passé maintenant entièrement dématérialisé, puisqu'il n'y a plus d'édition papier depuis un mois, deux. Et effectivement, enfin, même si les journalistes de ces quotidiens gratuits, enfin, ont des savoir-faire, et notamment un certain talent pour compacter l'information dans des petits formats, un vrai savoir-faire pédagogique et journalistique, avec les budgets ridicules qu'ils ont, ils ne peuvent faire aucune enquête sérieuse, et donc ils sont complètement tributaires. Il y a ce joli verbe bâtonner, ils bâtonnent, c'est-à-dire qu'ils réécrivent des dépêches d'agences de presse, mais leur capacité autonome de produire de l'info, quel que soit leur mérite, ils en ont, c'est rikiki.
Est-ce que la formation, la profession de journalisme, s'est féminisée?
Oui, énormément. En fait, moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce journaliste en général, il y a 25 ans déjà, la part des femmes était très limitée. Je vais dire des bêtises quand je cite des chiffres comme ça sans avoir mes antisèches, mais en gros, il devait y avoir 20 et quelques pourcents de femmes dans la profession. Aujourd'hui, si on prend les flux d'entrée, c'est-à-dire les premières cartes, première fois qu'un journaliste obtient une carte, on est à 50-50. Et ça a vraiment été un des traits de l'évolution depuis 20-30 ans, c'est-à-dire une féminisation extrêmement rapide du journalisme. Alors, ce qui n'empêche pas qu'on retrouve des phénomènes qu'on retrouve dans toutes les professions de plafond de verre, d'inégale rémunération, c'est-à-dire. Il y a des secteurs, par exemple le journalisme de guerre, où de manière assez surprenante, les femmes ont pris beaucoup d'importance dans la couverture des conflits. Il y a même des femmes qui ont très prestigieux, parce qu'on sait Anniva qui s'est fait connaître pour ça. Mais on retrouverait encore des asymétries. À un moment, j'avais bossé. Voilà, les journalistes s'occupent de santé. S'il y a un grand congrès scientifique où on a découvert un vaccin, il y a toutes les chances du monde que ce soit un homme qui aille couvrir. S'il faut faire ce qu'on appelle le marronnier quand l'hiver approche, est-ce qu'il faut se vacciner contre la grippe ou comment se débarrasser des acariens dans votre literie, pique-nique douille, ça va être une femme qui va avoir le papier à rédiger. Mais malgré tout, on voit quand même de plus en plus de femmes à des postes de responsabilité et je dirais que par certains égards, elles ont contribué à renouveler aussi le journalisme en proposant des fois plus un regard, je dirais, à hauteur du sol ou à hauteur des expériences que ne le faisaient les journalistes hommes. Alors, ce n'est pas manichéen, mais le fait, par exemple, que le premier livre, en l'occurrence, de journaliste qui ait raconté la vie des femmes de ménage, le Quai Louis Strohan de Florence Aubenas, que ce soit une femme qui l'ait écrit, je ne dis pas qu'un homme ne pouvait pas écrire ça, mais je pense que ce n'est pas du tout l'effet du hasard si ce regard par le bas, c'est venu d'une femme.
Oui, c'est pas du tout la même approche.
Tout à fait.
Une approche davantage humaniste, si, ou sentimentale, mais au bon sens.
Oui, ça qui part des expériences et qui, au fond, qui nous dit aussi que le journalisme, ça devrait faire sens de la vie des gens ordinaires. Je pense que c'est un des gros problèmes du journalisme en France et partout aujourd'hui, au fond, c'est que consciemment ou inconsciemment, la plupart des journalistes, là je parle des grands titres de médias, je parle pas de Psychologie Magazine ou de Science et Vie Micro, mais ils parlent des gens importants aux gens importants. C'est les publics populaires, et pas seulement eux. C'est pas ça qui les intéresse d'abord. Et le journalisme devrait aussi, enfin, je pense, s'y attache. Quand on parle, par exemple, d'une politique publique, aller aussi voir ça veut dire quoi sur le terrain, comment c'est appliqué, comment c'est traduit, ça veut dire quoi pour les gens à qui on applique la politique en question, ou d'ailleurs aussi la question, des fois on fait des politiques pour apporter un service ou une prestation à certaines catégories de gens, c'est tellement compliqué d'y accéder que les gens n'y accèdent pas. Enfin, si je dis simplement ma prime rénov', je pense qu'un tas de gens vont comprendre de quoi je parle. Donc, le journaliste, ça pourrait aussi être ça. C'est vraiment regarder à hauteur des gens ordinaires leurs expériences. Et il y a des fois pas moins à comprendre sur comment fonctionnent nos sociétés qu'en étant dans les cabinets ministériels.
Ouais. J'observe qu'il y a un grand nombre de femmes journalistes, grands reporters, reporters de guerre. Et cette évolution me surprend aussi, parce que pendant longtemps, c'était essentiellement des hommes qui étaient photographes ou reporters de guerre.
Oui, alors, mais ça, je pense que c'est aussi, enfin, dans l'évolution du journalisme, il y a des Britanniques qui ont écrit des choses assez malines là-dessus. Enfin, c'était aussi comment je vais dire ça? Je pense que jusqu'aux années 60-70, il y avait peut-être aussi une mythologie un peu macho, j'ai envie de dire entre guillemets un peu couillu, voilà, le journaliste qui va
Je mets
barouder.
le casque, le gilet
Voilà,
pare-balles.
c'est ça. Mais bon, voilà, c'est aussi des gens qui n'ont pas d'horaire, qui n'ont pas de vie de famille parce qu'ils ont des horaires extrêmement étendus. Et je pense que ces mythologies-là, elles sont un peu défaites et que même, enfin, Anne Niva dit ça très bien. Dans certains cas ou sur certains terrains, elle le raconte pour l'Afghanistan. Paradoxalement, c'était pas un handicap d'être une femme. Pour rencontrer des gens, pénétrer dans les villages. Bon, et puis enfin, l'exercice du métier s'est modifié et les femmes ont remarquablement occupé ce type de créneau. Oui. Mais je pense oui, ça c'est aussi, enfin, c'est classique, mais à partir du moment où le ratio homme-femme, il n'est pas 4 contre 1, mais 50-50, ça veut dire non pas que tous les problèmes sont réglés, mais qu'il y a toute une série de comportements machistes, de formes agressives et déplaisantes d'expression de la suprématie masculine qu'il faut mettre en sourdine un petit peu, quoi.
Ouais. Vous venez d'évoquer la quantité de travail qui doit être réalisée par ces journalistes. Alors, à part quelques journalistes qui sont coincés dans des rédactions qui ont des horaires de bureau, sinon le travail de journaliste est extrêmement prégnant et déborde très souvent sur la vie familiale.
Alors, oui, ça, c'est un des traits de la profession. Enfin, tous les journalistes disent qu'elle est souvent très destructrice pour la vie familiale à cause de la question des horaires imprévisibles, des choses qui se prolongent en soirée. En même temps, il me semble qu'il y a une contre-tendance. Alors, non pas que ça soit devenu une profession plomb-plomb et sans saute d'horaire, mais malheureusement, il y a quand même une tendance croissante à ce qu'on appelle le journalisme assis. C'est-à-dire que de plus en plus, je ne dis pas pour tous les journalistes, il y en a, dans la profession, c'est de sortir les journalistes, reporters d'images, etc. Mais banalement, les outils de travail de beaucoup de journalistes, c'est un ordinateur comme ceux devant lesquels on est et qui leur permettent de se connecter sur les agences de presse, des sources, de faire des recherches. Et c'est le téléphone portable. Moi, je me souviens, alors, l'exemple que je donne, il est vieux, il remonte à une vingtaine d'années, mais c'était une journaliste qui avait travaillé dans un magazine qui a une vie relativement courte, enfin un magazine d'information centré sur l'Europe, un magazine qui a duré 1 an, et elle me disait, j'essaie de me rappeler, je ne suis jamais sorti des locaux de la rédaction pendant 1 an pour le boulot, parce que on avait une petite équipe et on faisait tout par téléphone ou en ligne, y compris les interviews. Alors, ça, après, il faudrait aussi dire, il y a les journalismes au pluriel, parce que bien évidemment, le ou la journaliste qui est localier à Ouest-France ou à Var Matin, bon, il ou elle est beaucoup plus sur le terrain, il est beaucoup plus directement familier de tout un tas d'interlocuteurs, mais il y a quand même dans les rédactions énormément de journalistes qui travaillent devant un clavier et il n'est pas certain que ça n'ait que des effets bénéfiques sur ce qu'ils produisent.
Bon. En quatrième de couverture de votre livre, il est indiqué, suspecté de faire l'opinion, d'être trop proche des puissants, ou au contraire, sans cesse critique, les journalistes exercent une profession chahutée.
Oui, ben au fond, enfin d'abord, on sait que c'est une des professions dans les enquêtes d'opinion les moins aimées et qui a l'image la plus négative avec les élus politiques. Et que souvent, parce qu'on pose des questions, par exemple, est-ce que vous pensez que les journalistes sont indépendants? Est-ce que vous pensez que ce que vous lisez dans le journal, c'est fiable? Il y a une suspicion qui est assez importante, enfin, et qui est paradoxale, parce que quand on demande aux gens, est-ce que ce que vous lisez dans le journal, ça montre que les journalistes sont indépendants, comme une majorité de personnes en France ne lisent pas de journal, la nature des réponses, a un côté un peu problématique. Oui, c'est une profession, chahutée, parce qu'il y a effectivement toujours cette suspicion. Alors, ces suspicions qui peuvent être très variées. Alors, peut être des suspicions politiques. Voilà, les journalistes de France Inter sont des gens de gauche. Ils ont d'épouvantables biais. Ça peut être la suspicion qu'ils soient trop éloignés de l'expérience ordinaire des gens, ou au contraire, enfin, une autre façon de le dire, qu'ils soient trop proches des puissants et des sources qui ne parlent pas des bons sujets. Et je pense aussi que ils sont aussi confrontés à un fait, voilà, qui lui est nouveau, c'est-à-dire, au fond, à côté des journalistes, au sens de personnes qui travaillent pour des organes de presse, qui juridiquement ont la carte de presse, on voit se développer de plus en plus de gens qu'on pourrait appeler des producteurs d'informations. Alors, c'est notamment, on a tendance à l'oublier, mais toutes les hommes et les femmes qui sont attachés de presse, qui sont lobbyistes, dont le boulot à plein temps, c'est d'essayer d'influencer ce qui se publie. Et en gros, ces professions-là, c'est 3 fois les effectifs des journalistes dans la plupart des pays européens. Et puis, on a de plus en plus, pour le meilleur et pour le pire, ben, tous les gens qui ont des blogs, qui envoient sur les réseaux sociaux des vidéos, des messages, des commentaires. Enfin, et ça peut être extrêmement important. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, sur les différentes boucles Facebook des Gilets jaunes, il y avait jusqu'à 4 millions de messages par jour. Donc, c'est pas anecdotique. Et du coup, ça crée une autre forme d'instabilité. C'est-à-dire, dans le jargon des sociologues, on appelait ça le gatekeeping, c'est-à-dire l'idée que les journalistes, ils étaient un peu comme le videur à la porte de la boîte de nuit, qui disait non, toi tu rentres pas, toi tu dégages, et ils avaient un pouvoir au moins de filtrer ce qui était digne d'être publié. Bon, maintenant, l'expression anglaise, c'est gatewatching, c'est-à-dire, voilà, ils regardent ce qui rentre et ce qui sort, éventuellement, une fois le temps. Ils peuvent pousser des cris ou dire arrêtez-le, arrêtez-le, mais ils ont perdu ce pouvoir d'être les contrôleurs du flux d'informations auquel on réagit. Bon, et ça, c'est pas évident du tout. D'où, par exemple, la question des fake news et l'émergence de cette spécialité dite fact-checker qui va être de débusquer ce qui serait des informations inexactes. Et si j'ajoute, mais ma réponse à trop de rallonge, que ben, un autre trait de l'évolution de large secteur de la presse, c'est que c'est de moins en moins rentable. Donc, on est vraiment dans une situation très inconfortable où la tendance, c'est que les rédactions sont moins étoffées, ont plus de boulot parce qu'il faut aussi alimenter le site web, elles ont de la concurrence à l'extérieur et les recettes par abonnement, les recettes les recettes publicitaires sont parties au bon coin. Donc on a d'énormes problèmes de financement. Alors, qui commence un peu à se rétablir. On n'a pas forcément trouvé ce qu'on appelle la formule économique, mais si on regarde des titres comme Libération, Le Monde et autres, le nombre des abonnements en ligne a quand même considérablement remonté, et du coup, en termes de santé financière des titres, le pire est peut-être derrière. Mais donc oui, c'est une profession enfin, qui vraiment a été hyper secouée par tout un tas d'évolutions techniques, politiques, économiques depuis 20-25 ans.
Vous venez de parler d'économie. Pourquoi les manias de la finance achètent les médias?
Ben, ils achètent les médias d'une part parce que c'est un outil par rapport au pouvoir politique, voilà, j'ai un média, je serai gentil avec vous, mais vous ne me ferez pas de misère. Je ne veux pas me rappeler de son nom, mais je crois qu'il y a un de ces milliardaires qui est pas très loin de Marseille et bon, qui essaie de foutre à la porte son rédac chef quand il dit que les opérations Placenet, c'est de la rigolade, quand il réintervient quelques jours après. Bon, si ce monsieur achète toute une série de journaux et de titres. Alors, je ne sais pas quel est l'avenir de notre président de la République, mais dans l'immédiat, je ne pense pas qu'il lui fera beaucoup de peine. Donc, ça, c'est un élément. Bon, aussi le fait qu'une partie de ces groupes, ben, ils travaillent beaucoup sur des commandes d'État, dans le BTP ou les industries d'armement. Donc, c'est aussi un outil de négociation. Puis, accessoirement, ça leur coûte rien, puisque, en fait, avec les systèmes de holding, même si vos titres de presse y sont déficitaires, ça va être fondu dans le bilan fiscal de la holding et ça va venir se déduire des bénéfices imposables des branches juteuses de votre groupe industriel. Donc, bon, et puis, je sais pas, et éventuellement, il peut aussi y avoir chez certains, bon, c'est comme un beau jouet ou un blason qu'on arbore. Je possède un titre de presse. Enfin, quand on regarde quand même globalement, la tendance, c'est à exercer une influence politique
Politique.
et qui presque toujours vont dans le même sens. Parce que bon, il y a notre sympathique milliardaire breton, M. Bolloré, mais si vous connaissez un Bolloré de gauche, il faut me le citer, c'est un oxymore.
Est-ce qu'on peut dire que les journalistes ont remplacé les colporteurs qui passaient de ville en village pour vendre leurs marchandises, mais aussi raconter ce qu'ils venaient de traverser? Alors, c'était pas des journalistes, mais quand même, ils
Oui.
étaient en même temps que porteurs de marchandises, ils étaient porteurs d'informations.
Mais je dirais peut-être de moins en moins. Alors, en même temps, au fond, depuis qu'on a commencé à échanger, sans l'avoir jamais dit, on est sur une espèce de définition de la presse qui est fausse au sens, enfin, je le prends pour moi, où on se polarise sur la presse d'information, presse quotidienne régionale, presse parisienne, hebdo, mais la presse française, structurellement, c'est d'abord une presse magazine, enfin, avec des dizaines de titres. Tout à l'heure, je disais Science et Vie Micro, mais il y a une presse pour les chasseurs, il y a une presse pour le développement personnel, il y a de la presse de cuisine, il y a la presse en fonction de vos préférences sexuelles. Enfin, il y a un panorama gigantesque de presse et ils sont les premiers employeurs de journalistes. Donc, de ce côté-là, on peut retrouver quelque chose comme ça. Je sais pas si votre passion c'est la cuisine ou si votre passion c'est les traditions régionales ou c'est le voyage, bah, vous trouverez forcément chaussures à votre pied et des titres qui vont vous parler. Mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que probablement un des problèmes du journalisme, alors qui essaierait de cibler un public plus large, bah, c'est peut-être justement de s'être déconnecté d'une forme de mise en récit de la quotidienneté. Alors, on peut peut-être mettre un bémol en disant que ça a peut-être migré vers des formes de presse qui sont par exemple des magazines, enfin je m'entends, des magazines très particuliers comme 21, c'est-à-dire l'idée de raconter des histoires très longues qui reposent sur des enquêtes, ou ce qu'on voit, enfin ce qui existe depuis très longtemps aux États-Unis, mais ce qui est en train de décoller en France, c'est-à-dire des reportages qui sont publiés sous forme de livres. Je ne sais plus comment s'appelle votre collègue marseillais qui écrit La Fabrique du Monstre, ces choses-là, qui raconte la vie politique marseillaise, ça c'est un exemple, mais il y a un jeune journaliste qui s'appelle Geoffroy Le Guichet, qui a écrit un livre qui est en poche, qui s'appelle Steak Machine. Il s'est fait embaucher en dissimulant son identité dans un abattoir et il raconte qu'est-ce que c'est que le boulot dans un abattoir, la pénibilité physique, la question de la manière dont sont traités les animaux. Et bon, ça, c'est des choses qui ont un relatif écho. Ou si je donne un autre exemple breton, vous avez forcément entendu parler de cette bande dessinée qui s'appelle Les Algues Vertes. Ben, c'est du journalisme. C'est une journaliste, Inès Leroux, qui bosse sur les questions agroalimentaires, qui a travaillé avec un dessinateur de BD. Alors ils ont fait, ça a d'abord été une petite BD dans la revue dessinée, puis une bande dessinée vendue en librairie, puis un film. Et en même temps, en Bretagne, ils ont énormément circulé, fait des conférences, des présentations. Et c'est quelque chose qui a eu un très gros impact, enfin, en tout cas en Bretagne spécifiquement, puisqu'on est aux premières loges pour les algues vertes. Donc ça, c'est une autre forme de journalisme qui est plutôt en train de décoller. Bon, la question revient toujours à ça. On sait tous que rentrer dans une librairie, c'est une barrière sociale. Il y a des gens qui pousseront jamais la porte d'une librairie. Donc c'est très bien, mais il y a des catégories sociales entières que ça atteint difficilement. Et justement, en discutant avec le Guilcher, que j'avais interviewé, lui disait ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est à basculer ces reportages-là sur des séries de télé. C'est-à-dire le jour où des reportages qui sont vraiment issus d'une vraie enquête de terrain prolongée, enfin, où il y a à la fois des choses qui captent l'attention des personnages, des émotions, du quotidien, mais qui permettent aussi de poser des questions sociales de fond. Le jour où ça sera plus simplement imprimé, mais où ça basculera sur des supports séries, on pourra toucher d'autres publics. Et de fait, The Wire sur écoute, c'est probablement, beaucoup d'égards, du très bon travail sociologisant sur comment ça marche une ville, quoi.
À propos de la lecture et de l'approche de la lecture, je me trouvais hier sur la Canebière. Il y a sur la Canebière deux girafes, dont
Oui,
une
je les
qui
vois, ouais.
sert à déposer des livres. Donc
Oui,
chacun
je les
peut
vois,
prendre
ouais.
des livres ou en déposer. Et il y avait sur un banc une maman avec un jeune gamin, 4-5 ans. Et à un moment est venu un monsieur avec un livre à la main qui était une BD, et l'a donné au gamin. Et je suis à peu près certain que c'est la première fois que cet enfant voyait un livre.
Oui. Mais effectivement, ça, je pense que c'est vraiment une piste. C'est-à-dire comment on peut multiplier les supports et les formats. Et je pense qu'il y a toute une déclinaison. Alors, ça peut être le livre, ça peut être la bande dessinée, roman graphique, ça peut être le film, ça peut être la série. Et que peut-être qu'un des avenirs du journalisme, c'est de basculer sur d'autres supports. Enfin, il y aura toujours des magazines papier, il y aura toujours des sites en ligne, mais il me semble que dans la pratique professionnelle, il y a beaucoup d'innovations depuis 15-20 ans qui ont consisté à essayer de changer de support ou à sauter d'un support à l'autre comme on fait du saut de mouton. Si je prends un autre exemple très pratique, David Dufresne, qui est un journaliste indépendant, qui a un site web l'avenue. Bon, c'est quand même lui qui va, d'une certaine manière, pousser dans l'espace public le débat sur les violences policières contre les gilets jaunes, puisque pendant tout un temps, on nous dit, ça n'existe pas, violence policière, ça n'a pas de sens, c'est marginal, etc. Donc, Dufresne, ce qu'il a fait en utilisant les réseaux sociaux, il a centralisé et collecté tous les cas qu'on pouvait documenter avec des images, des témoignages de violence. Il a commencé à faire des décomptes, à publier ça sur son site. Bon, à la suite de quoi, que je ne me trompe pas de chronologie, mais je pense qu'il a commencé par faire un film, Un pays qui se tient tranquille, qui était pratiquement entièrement constitué à partir d'images captées par des manifestants sur leur téléphone. Bon, entre son site web et le film, ça a eu un impact et ça a obligé un certain nombre de grands médias à dire, ah ben oui, il y a peut-être matière à discuter de ces choses-là. Et ensuite, quand je disais saute média, bon, il a écrit ce qu'il appelle un récit, c'est-à-dire une espèce de roman, mais qui n'est pas un roman de fiction, Dernière Sommation, qui lui a à nouveau permis d'occuper l'espace médiatique. Donc je pense qu'il y a aussi ces jeux-là, passer d'un média à un autre et utiliser, je donne un dernier exemple, vous rappelez Les Fossoyeurs, le livre de Victor Castanet sur les EHPAD. Ben, en fait, ben, ça a quand même eu un impact énorme au départ, mais il a un impact parce que le bouquin, les bonnes feuilles sont reprises dans Le Monde dès que ça sort, et ce que Bourdieu appelle la circulation circulaire, puisque tu en parles, il faut que j'en parle, c'est comme une réaction atomique, ça se met en marche tout de suite, quoi.
Vous parliez de magazines. Moi, j'observe de plus en plus de magazines à la télé, mais aussi à la radio, et notamment à la télévision, des journalistes qui, avec plein de guillemets, s'inventent spécialistes.
Donnez-moi un exemple.
Oh, c'est dans l'air, peut-être.
Je ne sais pas comment répondre simplement. Bon, oui, il y a des journalistes qui sont de vrais spécialistes. Je sais pas, si je prends au Monde les deux journalistes qui sont chargés des questions d'environnement, Stéphane Foucart, Stéphane Aurel, bon, c'est vraiment des gens qui ont une maîtrise des dossiers, d'ailleurs, qui ont y compris écrit des livres extrêmement documentés, qui sont quasiment des livres académiques, peut-être un peu plus rigolo à lire que des livres académiques. Mais bon, l'idée qu'il y ait des journalistes spécialisés, qui aient des compétences très pointues, oui, enfin, et tant mieux. Et d'ailleurs, un des problèmes de la perte de ressources des rédactions, c'est la déspécialisation. C'est-à-dire, quand on n'a plus de quoi payer des gens, faire un boulot très pointu et qu'on demande à des journalistes de faire l'homme orchestre, même s'ils sont très talentueux, ils vont faire du mauvais boulot. Donc, je pense que si c'est aux mains de journalistes enfin, qui ont fait un vrai investissement, qu'on maîtrise les dossiers, je pense que c'est très bien qu'ils fassent des émissions spécialisées, qu'ils invitent des spécialistes, je pense sur France Q. Et ça n'est pas forcément une présentatrice qui m'est immensément sympathique, mais l'émission de Christine Ockrent le samedi matin, bon, elle invite souvent des gens intéressants et qui savent de
Tout à
quoi
fait.
ils parlent. C'est plutôt
Oui, c'est une
stimulant.
émission de qualité, c'est vrai. Je partage.
Mais la question, c'est aussi enfin, les critères de sélection des spécialistes non journalistes qui sont invités sur les plateaux. C'est-à-dire, au fond, le critère, c'est ce qu'on appelle le bon client. C'est quelqu'un qui va accepter de venir quand on claque dans les doigts, il faut que tu sois là dans une heure ou en général, on vous appelle la veille pour le lendemain, même à France Q. Et bon, alors, qui ne valorise pas des gens qui bafouillent, qui, comme je suis en train de le faire, fassent des réponses interminables, c'est tout à fait logique. Mais c'est pas parce qu'on est capable de dire avec des émotions dans la voix des choses qui ont l'air très claires et simples en quatre phrases qu'on a fait une vraie analyse. Les Italiens ont un joli mot là. tutologo, celui qui peut parler de tout. Ben, il y a beaucoup de tutologues sur les plateaux télé ou dans les émissions de radio. Et souvent, parmi nos collègues, chacun dans nos disciplines, on se dit que ce ne sont pas les plus légitimes d'entre nous qui ont le plus de temps de parole sur en tant que spécialistes.
Ouais. Pour revenir à l'organisation de la profession de journaliste, quelle est la place des syndicats et de Reporters sans frontières, par exemple?
Alors, c'est un milieu, je n'ai pas de chiffres en tête, mais disons que je pense que pour des professions où il y a quand même une majorité des titulaires de cartes qui sont dans le privé, il y a encore une relative présence des syndicats avec le SNJ, CFDT, etc. Syndicats qui sont aussi, voilà, à travers des publications ou ou les moments des congrès, des lieux où il y a une forme de réflexion organisée. J'ai envie de dire que ça aussi, c'est un énorme problème du journalisme en France. Enfin, de mon point de vue, c'est quelque chose qui ressemble à une impuissance de la profession à exercer collectivement de la réflexivité, alors que c'est quand même des gens qui sont pour beaucoup d'entre eux bardés de diplômes et qui ont des niveaux de formation élevés. C'est-à-dire, il n'y a pas tellement de lieux où il y a vraiment une réflexion, des échanges, des propositions. Enfin, en tout cas, beaucoup moins que enfin, si je prends les États-Unis. Enfin, aux États-Unis, il y a cette chose qui s'appelle la Columbia Journalism Review, donc qui est une revue qui est en partie une revue académique, mais pas tant que ça, mais qui est vraiment le lieu où la profession fait le bilan de sa pratique, de ses expériences, célèbre ses réussites. Bon, on n'a pas ça en France. Il y a un titre qui s'appelle Les Cahiers du journalisme, qui est produit par l'École de Lille, mais bon, c'est absolument pas comparable. Donc, je pense qu'il y a même s'il y a une structuration syndicale, de mon point de vue, il y a un déficit de structuration et de capacité collective de réflexion de la profession.
Et d'implication, d'adhésion? Est-ce que les journalistes adhèrent volontiers à un syndicat?
Alors, je ne peux pas répondre au sens où je n'ai pas en tête le taux de syndicalisation. Je pense qu'il ne doit pas être considérable. On sait que la moyenne en France, on est autour de 10%, plus dans le public, moins dans le privé. Mais ce n'est pas forcément spécifique aux journalistes. Enfin, les universitaires ont un taux de syndicalisation qui est absolument ridicule. Mais éventuellement, enfin, vous évoquiez RSF. Il peut aussi y avoir dans ces professions intellectuelles des logiques de réseaux, d'associations qui font je dirais, des petites bulles ou des lieux où il y a de la discussion qui circule. Je pense à une chose, je regarde sur mon écran notre entretien qui avance et il y a un mot absolument clé auquel on pense trop rarement quand on parle du journalisme qui n'est pas sorti, c'est le mot source. Parce que s'il n'y a pas de source au sens des personnes, des institutions, des services qui communiquent des faits, des documents aux journalistes, ben le journal, il est vide. Et toute une partie de la difficulté du métier de journaliste, c'est qu'on ne peut pas être journaliste si on n'a pas un carnet d'adresses, des sources, des antennes, des gens à qui on peut parler, tirer par la manche, etc. Et qu'en même temps, les sources, alors pas les sources, ça peut être une association, ça peut être un parti politique, ça peut être une entreprise, c'est le conseil général, etc., etc. Les sources ont un pouvoir terrifiant, puisque d'une part, elles ont les personnels salariés dans les tâches de communication des entreprises, des associations, des organismes publics, je vous dis, c'est 2 à 3 fois le nombre de personnes titulaires de la carte de journaliste. Dans un contexte de précarité, mais quand une source vient vous voir, vous envoie un beau dossier sur papier glacé pour dire, je ne sais pas, nous inaugurons une usine à Mirabas, on fait des trucs fantastiques, vous avez de quoi faire le papier sans quitter votre bureau et ça, bon, vous n'allez pas dire non. Les sources, elles peuvent vous menacer. Alors, ça, c'est rare. En France, ce n'est pas courant, mais en Bretagne, on a des journalistes à radio, Radio Creil, je sais plus quoi, une radio du centre-Bretagne. Il y a une journaliste qui s'est retrouvée deux fois le matin avec les boulons de sa roue de bagnole dévissée parce qu'elle écrivait des articles qui déplaisaient au secteur agro-industriel sur les pollutions venant des élevages industriels. Ou la menace, ça peut être de dire avec un grand sourire, c'est un propos de M. Sarkozy, ah mais je connais très bien votre patron. Et puis, bon, ou la menace aussi, c'est les petits cadeaux. C'est ça qui est très compliqué, qu'il faut se garder de blâmer trop vite les journalistes, mais le rapport avec les sources, c'est des jeux de dons et de contre-dons. C'est-à-dire, je te donne, tu me donnes, et quand on rentre dans ce jeu-là, on est toujours débiteur à un moment, il faut refaire un contre-don. Bon, je vais pas publier ton truc, ça n'a aucun intérêt, les lecteurs en veulent pas. Ok, alors bon, je vais te dire un truc en off. Tu ne publieras pas, mais tu auras ça en tête quand tu voudras écrire un papier dans 15 jours. Et puis, bon, quand on a reçu du off régulièrement, et il en faut du off, ce n'est pas du tout une critique ce que je fais là, bah, si un jour l'attaché de presse dit oh, ça serait sympa, même si tu n'en dis pas que du bien, que tu fasses un petit article sur mon patron, c'est pas toujours facile de refuser. Donc, il y a tous ces jeux où il y a de la séduction, de l'échange, de la dépendance, de l'influence. Mais s'il n'y a pas cet univers des sources dont un collègue disait qu'elles se sont professionnalisées, c'est-à-dire beaucoup de sources se sont emparées des savoir-faire des journalistes. Et pour cause que, précisément, les horaires et les contraintes du boulot sont telles. Il y a pas mal de journalistes qui, en vieillissant, disent basta, je passe de l'autre côté. Et ils savent comment ça marche une rédaction et comment on met la pas pour. Donc, ça, c'est vraiment un point très important à avoir en tête. Enfin, je pense qu'on ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est que le métier de journaliste si on n'a pas tout ce tissu très sophistiqué, enfin, où chacun peut être très intelligent, très roublard, de relations entre les journalistes et les sources.
J'ai expérimenté cette relation il y a fort longtemps. J'étais responsable d'une entreprise, responsable commercial, et je faisais ce que j'appelais de la communication par anticipation. C'est-à-dire que j'expliquais aux journalistes sur quel projet j'étais en train de travailler, et je formulais ces explications dans le sens où elles étaient carrément conclues. C'était plus des projets, mais c'était des réalités. Et quelques journalistes régionaux me faisaient confiance et l'ont publié, ce que je leur avais indiqué, ce qui m'obligeait ensuite à réaliser ce que j'avais dit comme qui allait arriver.
Oui, parce que ça aussi, c'est une chose qui ne diminue en rien les mérites et la difficulté du travail des journalistes. Mais contrairement à un imaginaire, voilà, le journaliste ou la journaliste, c'est quelqu'un qui chevauche des événements totalement imprévus. Bon, oui, il y a des dissolutions du dimanche soir, il y a des navettes spatiales qui explosent, il y a des tsunamis. Mais la majorité des choses, vous prenez le journal de ce matin que vous lisez, elles étaient anticipables. Il y a des calendriers, il y a le Tour de France, il y a les Jeux Olympiques, il y a la rentrée du barreau, il y a la rentrée parlementaire, il y a le prix Goncourt. D'ailleurs, dans les rédactions locales de presse, ils ont un petit cahier qu'ils appellent la Bible, bah, qui dit, voilà, mardi matin, faut que t'ailles, il y a le lâcher de truite de l'association des pêcheurs, il y a la conférence de presse de ceci. Et donc, il y a quand même une prévisibilité beaucoup plus grande qu'on ne se l'imagine de ce sur quoi il faut assurer la couverture.
En ce moment de période électorale, quel est le rôle des journalistes et des médias? Et est-ce que ces médias, ces journalistes, influencent les populations?
C'est la question à 100 euros à laquelle on peut répondre ni par oui ni par non. Elle est...
Raconter autrement. Alors, moi, je considère que les affiches électorales ne font pas gagner une seule voix, sinon qu'elles rassurent les populations qui ont l'intention de voter pour tel ou tel candidat. Et il me semble les médias ont à peu près la même influence, mais vous allez pouvoir avoir une opinion différente. Dans la mesure où les gens n'achètent que le journal dans lequel ils espèrent retrouver l'information qu'ils souhaitent et regardent les télévisions qui les intéressent.
Oui, alors, effectivement, c'était un journaliste, François Closette, qui avait une jolie métaphore. Il disait, c'est pas comme le bronzage, c'est-à-dire, plus vous êtes exposé à TF1 ou à je sais pas quoi, plus vous allez prendre telle couleur. C'est-à-dire, c'est rarement une influence aussi directe. C'est-à-dire, l'idée, parce que j'ai entendu ça à la télé, j'ai vu ça dans le journal, donc je vais voter comme si. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais là où la presse peut avoir enfin, les presses peuvent avoir un pouvoir, alors, c'est dans ce qu'on appelle dans le jargon sociologique la définition de l'agenda. Voilà, il y a cette phrase classique disant la presse ne nous dit pas ce qu'il faut penser, mais elle peut nous dire à quoi il faut penser. Et donc là, il y a un pouvoir de définition de l'agenda, c'est-à-dire, enfin, au sens strict, un ordre du jour. Voilà, les problèmes aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'immigration, c'est l'insécurité, bon, alors, avec le fait que si les médias peuvent définir l'agenda, ben, on revient à ce qu'on disait il y a 2 minutes, ils définissent pas ça tout seuls. C'est-à-dire, ils définissent ça dans des relations avec des sources, des gens qui veulent les influencer, des campagnes, un air du temps. Donc, d'une part, là oui, je pense qu'il y a une capacité d'influence dans une hiérarchisation des sujets. Bon, et en même temps, cette formule, les médias ne nous disent pas ce qu'il faut penser, mais peut-être à quoi penser, ben, est-ce qu'on peut séparer l'un et l'autre? Et donc, là, c'est peut-être une autre notion qu'il faut utiliser, c'est l'idée de cadrage. De la même manière, quand je fais une photo, je fais rentrer des choses dans le cadre et puis j'en élimine d'autres. Ben, si on parle pas d'immigration, il y a plein de façons d'en parler. On peut dire c'est épouvantable, on est submergé par des gens pas civilisés qui sont des menaces pour ceci, pour cela. On peut dire si ces étrangers n'étaient pas là, notre économie ne tournerait pas, ils sont absolument indispensables. On peut dire oui, il y a des problèmes, mais bon, là, il faut des politiques d'intégration. En fait, il y a une infinité de discours possibles. Et ben, disons qu'une presse qui serait bien faite, c'est une presse qui rendrait accessible un maximum de ces cadrages, que les gens puissent se faire des idées. Bon, moi, il me semble que ce qui est quand même très saillant aujourd'hui, c'est plutôt la capacité de médias assez fortement marqués politiquement à tenir le diapason. Parce que, bon, CNews, ce n'est pas considérable, il va faire 3% de part d'audience. Mais bon, BFM, ils sont sur une ligne qui n'est quand même pas aux antipodes de celle de CNews politiquement. Je vais dire par litote que même si c'est moins monochrome, la chaîne Info n'est pas très à gauche. Donc il y a quand même, de manière assez surprenante, enfin, une capacité de ces médias à la fois à peser fortement sur l'agenda et à peser sur les cadrages. Et quand ils parlent de l'immigration, ce n'est pas de façon bienveillante pour demander l'intégration. Alors, ce qu'on peut peut-être relier aussi à une perte de pluralisme de la presse. Bon, on n'est pas dans un pays dictatorial, il y a encore un pluralisme de la presse, mais des titres de presse qu'on puisse clairement identifier comme étant à gauche, il n'y en a pas énormément. On va peut-être dire Mediapart. On va dire que il y a peut-être plus de pluralisme sur les médias de l'audiovisuel public, mais il y a quand même un tropisme droitier du système de médias, bah, qui nous renvoie à notre échange sur les milliardaires qui possèdent. Ce qui fait que, oui, il peut y avoir une influence. Alors, je suis toujours très mal à l'aise parce que j'entendais des reportages disant, voilà, notre reporter a été dans telle commune de l'Est rural de la France. Il n'y a pas un immigré dans la commune, mais il y a une panique sur l'immigration. Et c'est parce que les gens regardent CNews et puis après, ils écoutent Pro et ils enchaînent avec Hanouna. Bon, c'est possible, mais en même temps, je pense qu'il y a cette dynamique de fixer un agenda et des cadrages, enfin, mais ne sous-estimons pas la capacité des personnes, y compris des gens qui n'ont pas fait d'études et qui ne sont pas des grands intellectuels, à avoir une capacité à réfléchir. Enfin, je pense que quand il s'agit de choses qui renvoient à l'expérience vécue, il faut jamais prendre les gens pour des imbéciles, même quand leurs opinions nous déplaisent. Alors, on peut ne pas être d'accord avec eux, mais ils ont sûrement des raisons qui sont peut-être pas bonnes de penser ce qu'ils pensent.
Je recevais il y a quelques mois la porte-parole d'Aprimed, donc l'Observatoire des médias, qui a notamment écrit un livre dont le titre, me semble-t-il, Les médias et la gauche, où elle montre justement dans ce livre que les médias font rarement la part belle à la gauche.
Tout à fait,
Et
oui.
ça m'amène à évoquer la starification. Je ne sais pas si c'est comment des journalistes deviennent des stars. Je pense à Léa Salamé, à Pauline de Malherbe, mais Jean-Jacques Bourdin également, hein.
Oui, alors ce qui probablement a toujours existé d'une manière ou d'une autre, alors les médias audiovisuels étant sans doute plus propices à engendrer des stars, parce que du côté de la presse écrite, oui, il y a eu des gens célèbres, mais c'était plus ce qu'on appelait des plumes, je sais pas, Bodard, des grands reporters, des gens comme ça. Moi, ce qui me semble nouveau, c'est peut-être moins le fait qu'il y ait des stars, mais il y en a, mais que la montée des éditorialistes. C'est-à-dire, si vous prenez les plateaux BFM, CNews, bon, indépendamment même de la question de la couleur politique qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas, enfin, c'est des gens qui ne se livrent à aucun des actes qui sont censés définir le travail journalistique. Ils ne vont pas faire des enquêtes, ils n'ont pas étudié les dossiers, ils profèrent des opinions, et des opinions souvent extrêmement tranchantes. Bon, et ça, c'est quand même un problème que, justement, parmi ceux qui tendent à devenir éminemment visibles et à incarner physiquement la profession de journaliste, ben, ce sont des gens qui émettent des opinions, enfin, ce qui est bien leur droit, mais normalement, le journalisme, c'est pas simplement d'émettre des opinions. Moi, j'avais développé l'idée, elle ne sera pas traduite en acte, d'obliger les éditorialistes à se présenter sur les plateaux de télé avec un nez rouge, qu'on puisse les reconnaître et qu'on ne les confonde pas avec des journalistes. Alors, il y en a qui sont très talentueux, Barbier est capable de disserter de tout et de beaucoup d'autres choses encore, mais, ben, aucun d'entre nous n'est pique de la Mirandole. Les gens qui ont des explications et l'analyse en dernier sur absolument tout, enfin, c'est se foutre du monde, c'est tout.
Nous arrivons au terme de notre discussion absolument passionnante. Je rappelle le titre de votre livre. Sociologie du journalisme, qui est édité par les éditions La Découverte. Merci beaucoup, Éric Neveu.
Merci à vous.